Octave Mirbeau, Les abandonnés. Un après-midi de juillet, une jeune paysanne s'arrêta, très lasse, à Saint-André-de-Courtille, devant la grille d'un jardinet où M. Honoré Rebourg, en manchette de chemise et coiffé d'un large chapeau de paille, travaillait à écussonner ses rosiers. C'est-il vous qu'êtes le maire d'ici? Interrogea-t-elle. Oui, c'est moi, mon enfant, c'est moi. Vous avez à me parler? Et sans embarras, d'une voix claire et nette, elle répondit. Je viens pour accoucher dans votre hospice. Monsieur Honoré Rebourg, surpris, porta involontairement ses regards sur la taille déformée de la jeune femme et sur son ventre énorme qui bombait sous une jupe de laine grossière au plus droit, plus que par bref devant. Il s'empressa d'ouvrir la grille et comme la solliciteuse paraissait fatiguée par la marche, il dit avec bonté « Entrez, ma fille, vous avez sans doute besoin de manger, hein ?» Ah, oh ben c'est pas de refus. Et vous êtes bien honnête, monsieur. Bien sûr, la route est longue depuis Verteville. Et je suis Herbastan à l'heure. Il y fit traverser le jardin, franchir le seuil de la petite maison. Et la conduisit dans une salle à manger frugale et toute blanche, meublée seulement d'une table ronde de bois merisier et de quelques chaises de paille. Puis, l'ayant forcé à s'asseoir, il alla chercher un peu de viande froide, quelques fruits, une miche de pain, une bolée de cidre. « Allons !» ordonna-t-il doucement. « Mangez d'abord, nous causerons ensuite. » Et tandis que la paysanne, étonnée, attendrie, dévorait en silence ce bon repas tombé du ciel comme un miracle, en face d'elle, les accoudés sur la table, l'œil songeur, M. Honoré Rebourg l'examinait avec sympathie. Par une exception véritablement surprenante, le maire de Saint-André-de-Courtille, le bourg, près pour le département de l'Eure, était un brave homme et un homme instruit. Chose plus extraordinaire encore, chez un fonctionnaire, il se donne le luxe inouï de penser. C'est une manière de philosophe que les questions sociales intéressent beaucoup et tourmentent. Rien ne se passe dans la commune qui lui soit sujet à méditation. Il a donc des opinions sur bien des choses. Ayant vu de près les misères et senti combien, dans l'état de notre organisation politique et sociale, il était impossible de les soulager. La commune qu'il administre est pauvre, et à part les centimes additionnels elle n'a aucun revenu. Point d'octroi, point de marché. Et quand elle a payé ses services indispensables, il ne lui reste rien. Son maigre budget ne lui permet même pas de remplacer tous les jours les réverbères, les arbres hors d'usage, les arbres de la promenade. Elle n'a pas d'autre eau que l'eau calcaire et malsaine des puits. Pas d'autres égouts que les ruisseaux des rues. Et les rues sont malpropres, les maisons insalubres, les épidémies font rage, ravageant chaque année tout ce qu'elle, cette population chétive, débilitée par la mauvaise nourriture, privée du nécessaire, qu'on les bête libres et heureuses. En vain, le maire a-t-il réclamé des secours au gouvernement ? Et le gouvernement est resté sourd à ses réclamations et à ses plaintes. Tout ce qu'il a pu faire pour cette commune misérable, ça a été de l'obliger à construire des étables monumentales et de l'écraser ainsi davantage sous le poids d'une dette qu'elle ne pourra jamais payer. Le sous-préfet radical, le conseil général opportuniste, les gros propriétaires d'alentour conservateurs détestent ce maire qui s'est toujours trouvé en dehors des coteries et qui passe pour un esprit dangereux, pour un socialiste. Il n'a rien à attendre dans le gaspillage des faveurs administratives et la partialité des charités individuelles. Il fait ce qu'il peut, mais tout seul. Entretient de ses deniers le bureau de bienfaisance, prend à son compte la répartition, la réparation des routes, les dépenses imprévues. Toute une sa petite fortune passe en menus travaux d'assainissement, en charité multiple, et qui font hélas l'effet d'une goutte d'eau dans la mer, pour rendre à ces pauvres gens leur abandon moins sensible et moins saignante, leur misère. Ils tentent de leur inculquer un esprit de solidarité, d'entraînement mutuel, de les grouper en une sorte de famille anarchiste. Mais ils se heurtaient contre une force d'inertie qui les enlise dans leur groupissement, les rive à l'imbrisable chaîne qu'a forcé l'arrivisme des longs siècles d'autorité et de religion. Et tandis que la femme mangeait, M. Honoré Rebours continuait de l'observer en silence. Les yeux attristés, il se sentait une fois de plus en présence d'une de ces misères sociales, comme il en avait déjà tant vu autour de lui. Et son cœur s'émouvait à l'idée qu'il ne pourrait rien, peut-être, pour le soulager. Son imagination marchait, elle allait du passé au présent, l'un à l'autre relié par les cheminements éternels des miséreux et des douloureux. Elle allait aussi vers l'avenir, tout rempli de brumes noires qui ne peuvent percer les douces lumières du soleil futur, promis à notre résignation. Et mentalement, il se disait, ressassant l'inanité des théories et des découragements, des espoirs insensibles et impossibles, « Oh, je sais bien qu'il y aurait à faire quelque chose, mais tout est à faire. Mais comment ? La justice, la pitié, l'amour sont entravés par les lois. Toutes les lois sont oppressives et criminelles. Elles ne protègent que les riches et les heureux. Elles sont inexorables aux pauvres gens. Est-ce que cela finira bientôt, cette société de bourgeois implacables qui, pour se sentir vraiment riches et pour jouir de leur richesse, voler. Il faut que le spectacle soit toujours agrandi de la souffrance humaine, comme il faut un certain débauché la vue du sang et des chairs flagellées. Et dans ces moments-là, M. Honoré au rebours perdait de son calme philosophique. Il avait le sourd de colère, d'impatiente révolte, qui lui faisait rêver de vagues et universelles destructions. Il se voyait en flamant des armées de prolétaires et de meurs de faim, se ruer avec eux, avec l'illusoire conquête de la justice égalitaire et du fraternel bonheur. Oui, ils voulaient, s'ils avaient confiance de leur force, ils le voulaient, mais ce sont des moutons. Ils tendent la gorge au couteau. Quand la fille eut fini de manger, M. Honoré Rebours, par un effort soudain, d'un geste involontaire de la main, comme s'il chassait des mouches importunes, chassa ses pensées harcelantes et les tragiques visions qui s'élevaient, puis, d'une voix affectueuse et tranquille, il interrogea. « Voyons, mademoiselle, causons un peu. Comment vous appelez-vous ? Justine Lecœur. Vous venez de Verteville, m'avez-vous dit ? Oui, j'étais en place dans une ferme, tout près de la voie blanche. Et vos maîtres ? Eh bien, tant que j'ai pu travailler, ils m'ont grandi, gardé, mais quand le moment est venu et que j'avais bientôt accouché, ils m'ont envoyé en me disant que j'étais une traînée, une putain. Est-ce que je sais, moi? Alors, j'ai été voir le maire de Verteville. Mais il paraît que c'est défendu d'accoucher dans son hospice. Les sœurs ne veulent pas qu'il me dise que ça les offusquerait. Va s'attendrir le court-il, il te recevra. Monsieur Honoré Aubourg ponctua d'une grimace cette phrase qu'il rose du récit de Justine, et sa physionomie prit une expression amère. « Oui, dit-il, après un moment de silence, c'est-à-dire, mon enfant, que le maire de Versailles s'est débarrassé de vous. Eh bien, cela me chagrine infiniment, mais moi non plus. Je ne peux pas vous recevoir à l'hospice. Il ne m'appartient pas et je n'ai aucune autorité pour. On ne reçoit que des vieillards. Les règlements sont formels. Encore faut-il que ces vieillards privilégiés réunissent des conditions d'âge, de moralité, de domicile qui entrave généralement leur admission. C'est ainsi que les bienfaiteurs, et le maire appuya sur ce mot avec une volonté cruelle qui échappa complètement à l'esprit simple de Justine, que les bienfaiteurs entendent toujours la charité. Ils demandent à la douleur des papiers. Ils exigent de la pauvreté des certificats de bonnes mœurs et bonne vie. Il faut que les larmes leur plaisent et qu'elles aient eu de la vertu. Justine, déconcertée, dit simplement: alors, pourquoi qui m'a fait des menteries, le maire de Verteville? Puis, tout à coup, dans ses yeux, il y eut comme un effroi. Elle venait d'entrevoir l'affreuse solitude, l'affreux abandon où il allait entrer. Elle est le petit être qu'elle portait dans ses flancs. Monsieur Honoré Aubourg continua: voyons, et vos parents? Elle soupira: je n'en ai pas. Mon père a été tué dans une scierie quand j'étais toute petite, et ma mère est morte de misère quand j'avais 12 ans. Vous n'avez pas de tante, de cousins, de gens qui s'intéressent à vous? Je n'ai personne. Ah si, une vieille tante qui habite près d'ici, à Mongerville. Oh, quand ma mère mourut, elle me prit chez elle. Mais elle me battait, elle me donnait pas à manger. Je suis parti. Bien sûr qu'elle ne voudrait pas de moi. Ah, viens apprendre que je suis enceinte. Oh, ça ferait une vie. Mais ben, ça m'aurait. Et votre bon ami? Ah, le pauvre petit. Il est soldat, loin là-bas en Afrique. Et une larme trembla au bord de ses cils. Une émotion souleva ses flancs dans lesquels une douleur vive passa. Quelque chose comme le déchirement d'une fibre qui fit pâlir son visage meurtri de fatigue et mordu des taches de soleil. Parlez-moi de lui, demanda M. Honoré Aubourg. Justine hésita quelques minutes. Puis, à présent, se souvenant, toute souriante et tranquille, elle dit. Oh, il travaillait à la ferme depuis 6 mois, à peu près. Il était gentil et doux, doux, triste, mais triste. On l'appelait Jacques. Tu as bien un autre nom, que je lui dis une fois. Non, il n'en avait pas d'autre, monsieur. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais eu des parents. De plus, sur les routes, mendiant par-ci par-là, volant parfois par-ci. Madame, il faut bien vivre, le petit. Et l'on n'est pas généreux, allez, par les temps qui courent, dans les campagnes. On y récolte plus de coups de fouet, de coups de fourche et de coups de pierre que des morceaux de pain. Les gendarmes, une fois, le ramassèrent dans un fossé. On l'enferma dans la colonie de Saint-Nicolas-de-Brieuse. Et le pauvre mignon, il resta 10 ans, bourré de gros mots, battu jour et nuit, dans des cachots noirs, enfermés, enchaînés à des murs qui suintaient et coulaient sur son petit corps, chétif et maigre. Sans compter qu'un des surveillants se jeta sur lui un jour et le viola. Oh, Dieu, si c'est possible, des choses comme ça. Abrimée par tous ses souvenirs, elle s'arrêta une seconde, ses yeux vagues, puis elle continua. De tous les domestiques de la ferme, c'était moi qu'il préférait. Il me le disait quelquefois, et je le voyais bien. Les autres se moquaient de lui parce qu'il n'était pas fort. Mais moi, ça me plaisait. Quand il avait une minute de répit, il venait près de moi. Ou bien, lorsque je conduisais la vache du pré qu'on travaillait dans un de nos champs voisins, il accourait, ne disant rien, le plus souvent. Le dimanche, nous allions ensemble à la messe, et toute la journée, l'hiver au chaud, dans l'étable, l'été au frais sur le taillis, il était heureux de me regarder. J'avais grand pitié de lui, pauvre petit, sans famille, et qui avait tant souffert à la colonie. Ça me fendait l'âme. Et un jour, il me dit, Justine, j'ai envie de toi. Il y a longtemps que j'ai envie de toi. Tout ça me tourmente trop. Ça me tourmente. Alors, ça te ferait bien plaisir que je lui dise. Oh, oui, il me répond, ça me ferait tellement plaisir. Parce que ça me tourmente. Ça me tourmente. Eh bien, petit, viens là. Et prends du plaisir, mon mignon. Tu n'as pas eu tôt dans ta vie. Et le pauvre chéri, c'est vrai, n'est-ce pas? Je n'aurais pas pu lui refuser ça, ce n'était pas possible. En lui disant ces mots, tout émue. Elle avait un accent de pitié maternelle, d'une sincérité admirable, qui remua profondément M. Henri Rebourg. Il la trouva sublime. Le vice n'avait pas effleuré ses prunelles de bonne bête aimante. Même on voyait que le plaisir sensuel n'avait pas vibré dans sa rude chair de campagnarde secourable. Elle s'était donnée pour faire plaisir à l'amant, pour qu'il ait un peu de bonheur, et que ce bonheur vint d'elle. « Continuez, ma chère enfant, » dit M. Honoré Rebourg, dont la voix tremblait, et Justine reprit. Alors je suis devenue enceinte, et le petit a été pris à la conscription. Maintenant, il est en Afrique à l'heure actuelle. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Vous lui avez écrit? Bien sûr que non. Ça le tourmenterait trop, dites. À quoi bon? Il ne veut rien pour moi. Peut-être qu'il volerait pour m'envoyer de l'argent et qu'on lui ferait ensuite des misères. Faut mieux que le petit soit heureux. Monsieur Honoré Rebourg s'était levé et marchait dans la pièce étroite en proie à une agitation insolite. Et tout à coup, il endossa sa veste de toile posée sur un dossier d'une chaise, renfonça d'un grand coup de poing son chapeau de paille et dit « Attendez-moi » dit-il. Il sortit précipitamment, courut au télégraphe, et il télégraphia d'abord à Évreux. La réponse ne fut pas longue. On refusait de prendre sa protégée à la maternité. Ensuite, il télégraphia à Louviers et la réponse fut identique. C'était un non brutal, comme un coup de couteau. Alors, le cœur bouleversé, il se rendit à l'hôtel du Cheval Blanc, fit atteler une vieille berline et revint chez lui. « Je vous emmène, mon enfant, » dit-il à Justine, qui venait de s'endormir, la tête sur la table. On veut de vous nulle part. Nous allons voir jusqu'où peut aller l'infamie des administrations. Une heure après, il s'arrêtait devant l'hôpital de Louviers. Oh, la discussion fut vive avec l'économe, un petit vieux à lunettes. Se cachait derrière le règlement. Je me fous des règlements et de ceux qui les font, s'écria M. Honoré Rebourg. Si vous ne voulez pas recevoir cette malheureuse, eh bien je lui dirai de tuer son enfant. Et c'est vous, vous entendez bien, c'est vous que je récuserai de meurtre devant le cour d'assises. Cependant, tout en faisant ses réserves, l'économe troublé consentit à admettre, Justine Lacour. Oh, il était temps. Le soir même, elle accouchait d'un garçon. En rentrant par la nuit tout de noir, Monsieur Honoré Rebours songeait. Dans 8 jours, on renverra cette malheureuse avec son enfant. On lui donnera un trousseau de 15 francs de quelques langes et quelques brassières, en lui disant de ne plus jamais revenir. Et puis après, où ira-t-elle? Que deviendra son enfant si elle travaille? Qui le nourrira? Et si elle l'élève et le nourrit, où trouver de quoi remplir ses mamelles? Et il y aura des femmes honnêtes, à la vertu fortifiée par de graves rentes, qui l'insulteront. Cette créature admirable de pitié, de souffrance et d'amour. Et dire qu'il n'y a pas un asile pour ces abandonnés, qu'il n'y a pas une protection, rien, qu'il n'y a rien, rien, rien que la prostitution, mais il y faut de la beauté et le vol, et il nous faut du courage qu'elle ne doit pas avoir, ou la mort. Le seul être au monde à qui il dut peut-être attendre du secours dans sa détresse, de la joie dans sa douleur. L'État le lui prend, le lui vole. Il reviendra pourri par les contacts odieux, avili par le métier, par les jouisseurs, ou révolté. Ou bien ne reviendra-t-il pas? Et si elle tue son enfant un jour, pour lui épargner les horreurs de la faim, la honte des prisons et l'épouvante de la guillotine. Alors, qui donc rendra à jamais stériles les flancs des pauvres gens, et qui donc leur arrachera du cœur l'amour qui tue? Il regarda la nuit qui enveloppait les champs, la forêt, les villages, et il sentit se lever en lui, au milieu du fond de son être, une pitié immense, un immense amour pour les pauvres douleurs et les pauvres putains. Et les pauvres voleurs qui rôdent dans les ténèbres à mille.